J'aimerais partager avec vous quelques versets. On va aller autour d'un thème. Un thème, le murmure. Et on va lire juste quelques versets dans le livre des Nombres. Nombres, chapitre 14, et à partir du verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit : « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne valait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? » Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Amen. Est-ce qu'on peut mettre la suite, Yannick, s'il vous plaît, sur la diapo? La suite. J'ai trouvé cette phrase très intéressante. Ne laissez pas votre volonté gronder lorsque votre pouvoir ne peut que murmurer. Ne laissez pas votre volonté gronder, ça ne sert à rien, parce que vous n'avez pas le pouvoir de changer les choses. Votre pouvoir se résumera à vous plaindre, à murmurer. Alors, j'ai beaucoup travaillé et je vous ai fait un très mauvais jeu de mots. Il n'est pas terrible, hein. Mais j'aime bien ce qu'il signifie quand même. Un murmure, c'est quoi ? C'est tout simplement élever un mur. Et à un moment donné, on a tellement bien élevé le mur et on s'est tellement bien enfermé à travers, au milieu de quatre murs, qu'à l'intérieur, le fruit que nous sommes est totalement mûr pour la révolte. Totalement mûr pour la révolte. Et vous allez voir avec moi, au travers de différents textes de la Bible, que dans le fond, les murmures sont des murs qui s'élèvent et qui forment des prisons, tôt ou tard. Vous êtes enfermés. Quand vous commencez à murmurer, quand vous commencez à vous plaindre et à trouver votre situation très, très inconfortable, les murmures crient des vérités, n'importe comment, parce qu'elles disent des vérités, et ces vérités vous rappellent que, finalement, ces vérités crient contre vous. Les plus à plaindre, c'est vous. C'est vous qui murmurez, ce ne sont pas les autres. Quand on murmure, on se plaint des autres, on se plaint de la situation, on se plaint du monde, on se plaint de Dieu. Mais dans le fond, le problème, il n'est pas de l'autre côté, il est en vous. Et c'est ce que vous allez voir avec moi cet après-midi. La réalité, c'est que bien souvent, on murmure parce qu'on a peur. On murmure parce qu'on craint de perdre quelque chose. On murmure face aux difficultés. On murmure par la jalousie, parce que les autres ont plus. Pourquoi j'ai pas autant ? En fait, on veut s'en servir comme d'une arme, du murmure, et la réalité, c'est que bien souvent, cette arme se retourne contre vous, parce qu'on ne sait pas, évidemment, le poids, la portée que cela peut avoir, et c'est toujours contre nous que ça revient. Dans le texte qu'on a lu, exprès, on a démarré notre lecture au chapitre 14 et au verset 1er. « Si vous saviez ce que le peuple venait d'entendre quelques versets auparavant, vous seriez ébahis de les entendre parler comme cela. » Là, évidemment, on ne connaît pas bien le contexte, ou en tous les cas, on n'a pas plongé à l'intérieur de tout le récit, pour comprendre que si le peuple d'Israël se plaint, c'est qu'ils ont certainement de bonnes raisons de se plaindre. Après tout, quand vous vous plaignez, vous avez des raisons de vous plaindre, non ? Non, vous n'en avez pas. Vous voulez vous persuader que vous en avez. On se dit toujours qu'on a de bonnes raisons de se plaindre. Si je me plains, j'ai mes raisons, je sais que j'ai raison. Et là, on se dit, pauvre peuple d'Israël, il est tellement mal, finalement, dos au mur, ou face au mur, qu'il se plaint. Sauf que, il va laisser sa volonté gronder, alors qu'il n'avait pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Sinon, en tous les cas, il aurait pu changer son avenir. Le peuple d'Israël a été délivré de l'Égypte. Ça s'est passé quelque temps auparavant, très peu de temps auparavant, vraiment très peu de temps auparavant. Et au bout de quelques mois, après avoir traversé la mer Rouge, On se retrouve à la porte, à la frontière de ce que l'on a appelé le pays d'Israël, le pays de Canaan. Et avant d'entrer dans le pays de Canaan, on a mis au point une stratégie et on a envoyé quelques espions pour aller examiner un petit peu le pays, voir comment il est. Et leur mission était toute simple, voyez le pays, s'il est grand, s'il est fortifié, s'il est riche, s'il y a des villes, s'il y a plutôt simplement des villages, si c'est assez éparpillé, désertique, allez vous rendre compte et faites-nous un rapport. Ils partent à 12, ils reviennent à 12, plus une grande perche avec une grappe de raisin terrible, énorme. Elle venait de la vallée d'Eshkol. Et quand ils reviennent, sur les 12, il y en a 10 qui font un rapport calamiteux et il y en a 2 qui font un rapport plus que positif. Et là, on s'interroge, on se dit, mais est-ce qu'ils ont vu la même chose? Est-ce que c'est bien au même endroit qu'ils ont été? Et en fait, oui, c'est exactement au même endroit. Le fait est que 2 d'entre eux, il s'agit de Josué et de Caleb, ont vu un pays riche, la preuve, la grappe de raisin qu'ils ont ramenée. Ils ont vu un pays où il y a effectivement des villes, mais après tout, s'il y a des villes, comme on va conquérir le pays, on n'aura même pas besoin de construire les villes, elles sont déjà construites. C'est une opportunité. Ils ont vu également qu'il y avait un pays aussi riche où coule le lait et le miel, expression qui parle d'abondance. Bref, on a une opportunité extraordinaire de rentrer dans un pays fabuleux. Après l'esclavage, la liberté, mais la vraie liberté, loin de nos ennemis, et on va pouvoir s'installer, vivre libre et profiter de cette vie nouvelle. Sauf que les 10 autres n'ont pas vu la même chose. Les 10 autres vont dire par exemple ceci. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Le premier murmure que le peuple d'Israël fait entendre à ce moment-là, le premier en ce qui concerne notre méditation cet après-midi, je l'affecte à ce que l'on peut appeler les a priori. Quelquefois, on a des a priori. On pense que ça va mal se passer. On pense que les autres vont nous faire du mal. On pense que on s'en sortira pas. On pense que on n'est pas à la hauteur, on n'y arrivera pas, on n'est pas capable. Et là, on se trouve devant un problème. Parce que, en relisant le texte, je me dis qu'il y a toujours 2 manières de voir les choix de Dieu pour nous. Savez-vous que Dieu a fait des choix pour vous? C'est-à-dire à votre intention. Il a fait des choix. Il a choisi d'orienter votre vie. Ceci étant, parce que noblesse oblige et c'est le grand Dieu, créateur, il vous laisse libre de dire oui ou de dire non. De fait, vous avez 2 choix, forcément, celui de Dieu et le vôtre. Et rarement, ils vont se superposer. En général, ils sont à côté, voire totalement opposés, divergents. Et là, on s'étonne, on se dit, mais je comprends pas, c'est Dieu qui le conduit dans ce pays. Et en fait, ils réalisent que dans ce pays, ils vont mourir. Regardez quand même l'interprétation qu'ont fait ceux qui n'y avaient pas été. Ils vont dire, ils vont se plaindre, ils vont pleurer pendant la nuit. Toute la nuit, ils vont pleurer, ils vont gémir. Une fois qu'ils ont entendu le rapport, et ils vont dire, donc que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Nous aurions mieux fait de mourir si ce n'était pas en Égypte, c'eût été dans le désert, parce que nous allons tomber dans ce pays. Écoutez bien. L'Éternel nous fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Qui le leur a dit? Qui? Personne. Ils l'ont inventé. Ils l'ont inventé. Ils se sont dit, dans ce pays, on vivra jamais. Dans ce pays, on s'en sortira pas. On va mourir, on va être écrasé. Nos femmes vont être violées, nos enfants vont être vendus comme esclaves. Bref, c'est un pays atroce. On aurait mieux fait de mourir avant. Murmure. Un murmure qui les conduit à la mort. À la mort, pense-t-il. En fait, ce que je note, c'est qu'il y a 2 manières, j'insiste, de voir les choix de Dieu. Soit il vous pousse vers la réussite, soit, pensez-vous, il vous conduise à la mort. Et eux ont pensé que le choix de Dieu les conduisait à la mort. Mais moi, je peux vous dire que le choix de Dieu les conduisait à la réussite. Et si vous vous attendez à Dieu cet après-midi, il vous emmène vers la vie. Il vous emmènera certainement pas vers la mort. Si vous vous attendez à Dieu cet après-midi, le meilleur est là devant vous. Il n'est pas derrière. Parce que l'Égypte, ce n'était pas une partie de plaisir. Quand bien même, ils disent « Oh, on va nommer un chef et on retourne en Égypte ». Pensez donc qu'en Égypte, on les attend. On les attend. Tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts par un jugement divin. Parce que le Pharaon a refusé de laisser s'en aller ce peuple. Et vous pensez que maintenant, si ce peuple revient chercher refuge sous les ailes du Pharaon, ça va bien se passer ? Dieu a coupé la route derrière eux, précisément pour pas qu'ils n'y retournent. Maintenant, il faut aller de l'avant. Et je crois que quelquefois, on a vécu de bien tristes expériences, mais c'était volontaire parce que Dieu voulait couper notre retraite, couper la marche arrière, si vous voulez, couper un retour sur le passé, parce qu'il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Je vous encouragerai cet après-midi à réaliser que si vous vous attendez à Dieu, vous allez vers le meilleur. Pourquoi sont-ils inquiets ? Pourquoi ont-ils ainsi peur ? Pourquoi ont-ils vu le mal, le pire, alors que Dieu a toujours visé le meilleur ? C'est un paradoxe, certainement, du cœur humain. C'est qu'on aspire toujours au bonheur et on cultive le malheur. Allez comprendre. On veut toujours que ça aille bien et bizarrement, dans notre cœur, ça va toujours mal. On espère toujours que les choses vont aller mieux et on anticipe toujours le pire. C'est dans le cœur de l'homme parce qu'on a des a priori. On a des a priori sur tout, sur tous, et surtout on a des a priori sur Dieu. Et c'est ça le problème. Si je pouvais vous encourager, ce serait au travers de ce verset du psaume 18 où il est dit ceci, « Les voies de Dieu sont parfaites. » Vous entendez ? « Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. » Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Cet après-midi, vous vous confiez en Dieu, vous arrêterez de murmurer et vous comprendrez qu'avec Dieu, il n'y a pas de coup tordu, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de choses bizarres. C'est très clair avec lui. Il vous sort de la misère et de l'esclavage et il vous conduit vers la vraie vie. Faites-lui confiance. Même si l'horizon vous paraît pas très net, si ça vous semble un peu trouble, je peux vous garantir qu'au bout du compte, si Dieu y est, votre avenir est assuré et votre avenir sera heureux. Amen. Une deuxième chose que l'on remarque par rapport à cette histoire du peuple d'Israël, elle est arrivée un petit peu avant, c'est-à-dire entre ce moment-là et le moment où ils sont sortis de l'Égypte, dès qu'ils ont quitté l'Égypte et qu'ils ont traversé la mer Rouge, Dieu les a fait passer par des déserts. Je ne sais pas si vous aimez le désert. Jamais été vraiment dans le désert dune de sable. Je ne connais pas. Mais je connais des déserts, j'en ai vu quelques-uns. Le désert des Agriates, ce n'est pas très loin, c'est en Corse. C'est un désert, en Haute-Corse, le désert des Agriates. On a connu le désert de Judée, c'est quelque chose de plus imposant en Israël. Mais le désert tel qu'on le voit à la télévision, où vous avez des caravanes et les dunes qui changent tous les jours, on n'a jamais vu ça. Par contre, on nous a dit que si vous ne savez pas vous orienter dans le désert, vous avez peu de chances d'en sortir. Vous allez mourir dans le désert, parce que le désert, c'est un lieu de mort, ce n'est pas un lieu de vie. La Bible dit que Dieu conduit le peuple d'Israël sur le chemin désertique. Alors là, on peut se poser la question, a priori, est-ce que Dieu sait ce qu'il fait ? Moi, j'aurais tendance à vous dire oui. Est-ce que Dieu sait vers où il nous emmène ? Bien sûr que oui. Est-ce que vous avez la carte en main ? Est-ce que votre GPS est fiable ? Ça, vous ne savez pas. Vous êtes obligé de faire confiance. Et je me rends compte que souvent, on murmure quand on est face aux difficultés. Parce que personne n'aime la difficulté. Je ne dis pas qu'on n'est pas fait pour ça, mais on n'aime pas ça en tous les cas. Certains, à regarder un petit peu comment ils gèrent leur vie, on se dit que les pauvres, ils sont faits pour ça. Parce que tout ce qu'ils font, Ils l'entraînent eux-mêmes vers le malheur. Très étonnant. Les gens comme ça, ils sont nés, comme certains le disent, soit sous une mauvaise étoile, ou en tous les cas, ils n'ont pas beaucoup de chuchote, les choix sont souvent mauvais. Le fait est que personne n'aime les difficultés. Et je crois d'ailleurs que même ceux qui pensent être plus malins que les autres supportent encore moins les difficultés quand ils tombent dedans. Et est-ce que ça vous est arrivé de tomber un jour dans une difficulté? Ah, ça vous est arrivé? Dans une seule? 10, 20, 50, 100, 500, 1000. Je n'ai pas connu encore quelqu'un qui n'a jamais connu la difficulté. Jamais. Je pense que j'en rencontrerai jamais. Les difficultés, on est obligé d'y faire face. Exode, chapitre 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était non potable, amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, ça veut dire amertume. Verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ?» Chapitre 16, une autre histoire. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert, encore un désert, de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Amen. Les difficultés. Qui a dit que la vie n'était pas une traversée du désert? Personne ne pourra le dire. La vie est une traversée du désert. Alors il y a des oasis, il y a des moments de répit, il y a des palmiers, il y a des endroits où c'est un peu plus vert, mais la vie est ainsi faite. On n'y peut rien, c'est comme ça, et on y passe tous. Quoiqu'aujourd'hui, il vaut mieux naître en France qu'en Somalie, il vaut mieux naître en France qu'en Syrie, il vaut mieux naître en France qu'en Inde, il vaut mieux naître en France que dans les 3/4 des pays de la planète. Mais quand même, c'est un pays difficile. Toutes les vies sont difficiles, on n'y échappe pas, c'est malheureusement comme cela. Sauf que si Dieu nous invite ou nous convie à passer par un désert, c'est qu'il nous autorise aussi à en sortir. Et ça, c'est miraculeux. Parce que quand on s'enfonce dans le désert, on se dit on ne va pas s'en sortir. Comment on va faire? Ben, Dieu a la solution. Dieu a toujours la solution. C'est une période, le désert, une étape de la vie qui n'est pas forcément agréable. Mais j'aimerais que cet après-midi, vous réalisiez que Dieu a la capacité de transformer l'eau qui est amère. L'eau non potable peut devenir potable d'une manière miraculeuse. Quand on s'est trouvé à Mara, on avait soif, ça faisait quelques jours qu'on marchait. Dès qu'on a trouvé de l'eau, ben on a foncé. Et rapidement, on a compris que l'eau, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et que si on buvait cette eau, on allait tomber malade, peut-être même mourir. L'eau n'était pas potable. Ça a suffi, en un quart de seconde évidemment, ça a suffi pour soulever la colère. La colère, ne laissez pas votre volonté gronder lorsque votre pouvoir ne peut que murmurer. Et ils ont commencé à se plaindre. Pourquoi? Pourquoi de l'eau amère? Qu'est-ce que nous allons boire? Il a fallu un miracle, et ce miracle, Dieu l'a fait. On n'a pas lu le texte, mais le texte nous dit que quand on est venu vers Moïse et qu'on lui a porté nos plaintes, qu'est-ce qu'on va boire? Moïse a été vers Dieu en disant « Qu'est-ce qu'ils vont boire ?» Et la réponse a été toute simple, ils vont boire cette eau-là, mais une fois qu'elle sera rendue potable. Il lui a été demandé de prendre un bout de bois, de le jeter dans l'eau. Et le bout de bois, miraculeusement, a récupéré toute l'amertume, tout le poison qu'il y avait dans cette eau amère. Il a récupéré, il a pris en somme, il a avalé, il a absorbé toute la malédiction qu'il y avait dans cette oasis et dans ce point d'eau. Et à partir de ce moment-là, quasiment instantanément, l'eau est devenue potable. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, physiquement, chimiquement. Il faut demander à ceux qui passent l'épreuve demain, le bac S, là, ils pourront peut-être nous l'expliquer après-demain, s'ils ont ça au bac. Mais le fait est qu'il s'est passé quelque chose, forcément. C'est miraculeux ce qui s'est passé. Et dans le fond, le miracle, c'est qu'on ne peut pas échapper au désert. Mais le miracle, c'est que Dieu nous a dit qu'on allait en sortir du désert. Et je voudrais tellement que cet après-midi, vous puissiez réaliser vous aussi que le malheur, la maladie, la souffrance, finalement toutes ces choses-là qui nous assaillent et contre lesquelles on ne peut rien, tout ce qui ressemble à une vie amère, à une vie de souffrance et de peine, toutes ces choses-là peuvent être éloignées de nos vies parce que Jésus a payé le prix pour cela. On a chanté deux cantiques d'ailleurs qui nous ramènent à la mort de Jésus à la croix. Jésus est mort, certains disent sur un poteau, la Bible dit sur une croix. Le fait est que c'est qu'il a été cloué sur un morceau de bois. Ça ressemble à ce bois qui a été jeté dans l'eau. Et Jésus a récupéré toute la malédiction qui était sur vos vies, a pris, a absorbé sur lui votre culpabilité, votre faute. Et comme cela, il assainit votre cœur, il purifie votre vie, il délivre votre âme. Donc dans le fond, le miracle, c'est pas qu'il faut se forcer à y croire. Le miracle, c'est que Dieu a un plan de sortie quand on est en difficulté. Je ne sais pas si la Grèce va s'en sortir. Le plan B, le plan C, le plan D ont, semble-t-il, été épuisés. Mais pour Dieu, il n'y a pas de plan A, de plan B, il n'y a qu'un plan. Et le plan de Dieu est parfait. Et le plan de Dieu vous assure la liberté. Il vous suffit de croire que tout a été accompli. D'ailleurs, un peu plus tard, quand au chapitre 17, on a encore murmuré, décidément. On a murmuré au chapitre 15, on a murmuré au chapitre 16, et on murmure au chapitre 17. Et au chapitre 17, on a une belle image, une image forte de ce que Jésus fait. Dieu dit à Moïse, tu vas prendre ton bâton et tu vas frapper le rocher, la grosse pierre, la montagne qui est là devant toi, tu frappes le rocher et il en jaillira de l'eau. On avait soif encore et on murmurait encore. Et Moïse a frappé le rocher et de l'eau en a jailli. L'épître de Paul aux Romains nous dit que quand Jésus a été frappé, la vie de Dieu a jailli du calvaire, a jailli de sa mort. Son sang qui coule, c'est la liberté, c'est la purification de nos péchés, c'est la délivrance pour nos âmes. Alors dans le fond, j'aimerais vous dire que ce Dieu qui est capable de faire pleuvoir de la nourriture du ciel, parce que il a fait pleuvoir pratiquement pendant 40 ans du pain du ciel. Ce n'était pas des miches de pain toutes faites. C'était de la manne, une espèce de graine posée au sol tous les matins, pendant la nuit. Ça arrivait, et tous les matins on avait ça comme une rosée. Et on récupérait, on broyait, on pétrissait, on faisait cuire et on avait de la manne tous les jours, tous les jours. Et quand ça ne suffisait pas, Dieu déroutait un vol d'oiseaux migrateurs, quelques cailles qui passaient par là, et ça tombait du ciel aussi. D'où l'expression « ça ne va pas tomber tout cuit du ciel ». C'est quand même tombé tout cru. Il suffisait de le faire cuire. La réalité, c'est que ça tombe. Ça peut venir d'en haut. Attendez-vous à Dieu. La Bible dit « cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et je vous garantis, le reste suivra. Si vous vous attendez à Dieu, le reste suivra. » Alors quelquefois on a murmuré parce que on a eu des a priori. D'autres fois on a murmuré parce qu'il y avait trop de difficultés et on s'est dit c'est pas vrai, Dieu nous a abandonnés, c'est trop injuste, je m'en sortirai jamais. Mais avec Dieu il y a toujours la solution. Et puis certaines fois on a murmuré parce qu'on a eu l'impression qu'il y avait des préférences. Ouh que c'est terrible les préférences. Dans des familles quand il y a des préférences avec les enfants. C'est douloureux, ça, hein, quand les parents vont préférer l'un à l'autre. On ne sait pas ce qu'on est en train de fabriquer, là. On a connu comme ça des familles qui, malheureusement, ont pas bien saisi les besoins différents de leurs enfants. Et visiblement, on était davantage porté sur l'un que sur l'autre. Faut pas vous étonner que l'autre, à un moment donné, a dérapé. Eh oui. Il a senti la préférence, il a senti qu'il y avait un décalage, il a senti qu'on n'était pas logé à la même enseigne. Et ça fait souffrir, et ça fait murmurer. Dans le livre des Actes, je vous lis ceci. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, des juifs qui avaient vécu en dehors de Palestine et qui faisaient partie de l'Église, hein, qui étaient juifs eux aussi, comme ceux qui n'avaient vécu qu'en Israël, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Le contexte, c'est quoi ? C'est qu'on est au début de l'Église et il y a eu beaucoup de persécutions. Et beaucoup de ces hommes, ces femmes qui sont devenus chrétiens ont été lâchés, abandonnés par leurs proches, abandonnés par leurs familles. Aujourd'hui, dans certains pays du monde, si vous êtes chrétien, vous ne trouverez jamais du travail. Égypte notamment. Vous ne trouverez pas de travail. Parce qu'il y a, on va dire, c'est pas dit ouvertement, mais il y aura une préférence nationale. Et l'Égypte a comme religion officielle l'islam. Donc on préférera un musulman à un chrétien, même si ce n'est pas dit clairement. À une époque, on a créé, chez nous en France, le CV anonyme, le délit de faciès. Parce que quand les CV arrivaient avec les photos, dans certaines entreprises, on mettait de côté ceux dont le faciès ne correspondait pas. Et on gardait que ceux qui présentaient patte blanche en général. Bref, on sait très bien que les préférences, c'est quelque chose qu'il est difficile de ne pas subir et de ne pas vivre. Et là, la vérité, c'est qu'ils étaient tous chrétiens, mais visiblement, on avait tendance à aider davantage ceux qui étaient plus proches de nous que ceux qui venaient de plus loin. Pourtant, c'était des êtres humains, ils étaient dans le besoin, ils avaient des besoins. Et ça a grondé, ça a murmuré, forcément. On s'en est plaint. Ça nous enseigne quoi ? Ben, tout simplement que l'homme ne sait pas être parfaitement juste. Vous voudriez être équitable, mais ce n'est pas possible. Même le commerce équitable n'est pas si équitable que ça, visiblement. Ça rapporte plus d'un côté que de l'autre. On voudrait être parfaitement juste, mais c'est impossible. On fait des efforts, on essaye, on se donne du mal pour cela, mais il faut reconnaître que ce n'est pas forcément évident. La vérité, c'est que le péché a assombri nos valeurs morales. Et ce qui est juste l'est à mon entendement. Sauf que le péché a dévoyé cette vérité-là, et finalement, ce n'est pas si juste que ça. Je pense que c'est blanc, mais en fait, c'est gris. Je pense que c'est parfait, en fait, c'est presque parfait. Et forcément, tout ce que je vais faire, toutes les décisions que je vais prendre, elles vont être presque bonnes, presque justes. Elles vont être, c'est pas mal, c'est pas ce qu'il faut. Il n'y en a qu'un qui peut être juste, parfait, bon du premier coup. C'est Dieu, c'est Dieu. Et là, on en a l'exemple, même dans l'Église. Même avec des gens de bonne volonté, même avec des personnes qui ont un bon fond, un bon cœur, dont la vie a été régénérée, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors on a murmuré, là encore, on a murmuré et on s'est plaint. Préférence. Le cœur est partagé, notre cœur est partagé, le cœur de l'homme s'est refroidi forcément. Et la vérité, et chacun d'entre vous pourrait le dire, c'est que c'est dur pour tout le monde. Et que puisque c'est dur pour tout le monde, c'est en général du chacun pour soi. Eh bien, on fait ce qu'on peut. Hein. Moi, je veux bien vous aider, mais je me souviens, il y a de nombreuses années, quand à l'époque, il y a eu la guerre de Yougoslavie, il y a eu sur les frontières, et notamment dans la région niçoise, un afflux énorme de migrants qui fuyaient la guerre. Il y avait des Croates, il y avait des Serbes, il y avait énormément de gens qui se retrouvaient dans les rues. Et ces gens-là faisaient la manche dans la rue, essayaient de survivre. Et vous partiez sur cette grande avenue qui traverse toute la ville, qui est très longue, qui change de nom trois fois, mais qui est toute droite, qui va de la mer jusqu'au nord de Nice. Vous descendiez toute cette avenue, vous pouviez rencontrer facilement une dizaine de personnes qui avaient besoin d'aide. Et je me souviens de la remarque de quelqu'un qui, pour résumer, disait « Si je donne à tout le monde, à la fin, je me mets le 11e et c'est moi qui fais la manche. » Les gens disent souvent, c'est chacun pour soi. Je fais ce que je peux, mais à un moment donné, stop, j'arrête. Et ça vous montre que la perfection, on l'a pas, quoi. On n'a pas trouvé la solution. Hein. Aujourd'hui encore, le drame de l'immigration, c'est quelque chose qui va s'amplifier certainement. Donc on voit bien qu'on est devant des situations totalement ingérables, incontrôlables. J'aimerais vous dire que c'est parce que le cœur de l'homme est méchant, tortueux par-dessus tout, dit la Bible, qu'il a bien fallu que Dieu entre dans la danse, il a bien fallu que Dieu vienne et que Dieu fasse quelque chose. Alors je terminerai avec ce par quoi j'ai commencé. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous n'avez qu'une seule chose à faire, briser le mur qui est avec ce fruit à l'intérieur qui est bien mûr. Hein. Et si vous brisez ce mur-là, vous briserez le murmure aussi. Tout va s'arrêter. Vous avez un exemple, c'est ma conclusion, dans les évangiles. Un homme a décidé, il s'est levé un matin et il s'est dit « aujourd'hui je vais faire du bien ». Et il a décidé d'aller très tôt sur la place et d'embaucher ceux qui n'avaient pas de travail. Alors il en a trouvé quelques-uns. Hein. Et il leur a demandé « allez travailler à ma vigne et je vous donnerai ce qu'il est raisonnable. Un denier. » Pour la journée de travail, ça correspond 50-60 euros. Vous gagnerez ça à la fin de la journée. Ben, ils y ont été, hein, tout contents. Ils sont partis à 6 heures du matin. Le patron est rentré à la maison, il a pris un café, il a lu le journal, puis il est ressorti à 9 heures. Il a dit, bon, il y en a peut-être d'autres, je vais y aller. Il y a été, il en a trouvé d'autres. Il leur a dit, vous êtes là, allez travailler à ma vigne. Vous aurez ce qui est raisonnable. Là, il n'a pas dit un denier, il a juste dit ce qui est raisonnable. Et il a décidé d'y retourner encore à midi. Et il y est retourné jusqu'à 5 heures du soir. On travaillait 12 heures, hein, de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Première heure, sixième heure, onzième heure. C'est comme ça que c'est noté dans la Bible. Et vous lirez ça dans Matthieu chapitre 20. Et il a décidé de retourner sur la place à 17 heures, 5 heures de l'après-midi. Il n'y avait plus qu'une heure de travail à faire. Et il envoie encore quelques-uns. Mais pourquoi vous restez là toute la journée à rien faire? C'est une question franche. Hein. Et la réponse est honnête, visiblement. Et il leur dit, ben, c'est que personne nous a demandé d'aller travailler pour eux. Bon, ben, allez travailler dans ma vigne. Ils y vont. Le temps d'arriver, de se changer, de prendre le sécateur, c'est fini. Hein, une heure. Très vite fait. Et donc, ils passent au bureau comptable. Et quand ils arrivent au bureau comptable, le comptable avait reçu cette recommandation. Vous leur donnez la paye tout entière d'une journée. Vous leur donnez un denier, vous leur donnez 50 euros, comme c'était prévu, ou 60 euros, enfin bref. Eux, pour une heure de travail, ils ressortent avec un denier, une grosse pièce comme ça. Et les premiers qui avaient travaillé, et les autres qui avaient passé une partie de la journée dehors, demandent alors, qu'est-ce que tu as touché, combien? Et ils montrent la pièce, et tout à coup, ils se disent, mais waouh, on est tombé sur le patron le plus généreux de la terre. S'il leur a donné un denier pour une heure, ben moi j'ai travaillé 10 heures, il va m'en donner 10 fois plus. Vous êtes matheux comme moi, hein, c'est logique. 10 fois plus. Et puis finalement, les uns et les autres passent, et quand arrivent ceux qui espéraient toucher le plus, ils reçoivent un denier. Et là, murmure. Un dernier murmure. Un murmure quand même. Ils vont râler, ils vont se plaindre. Et c'est étonnant la réponse du patron. Je veux vous la lire. Il dira ceci. En recevant le denier, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. » Regarde le contrat que tu as signé ce matin. « N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ?» On avait dit ça au départ, tu as été d'accord, je t'ai pas forcé. Maintenant, prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? La bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu est bon pour vous cet après-midi. Il a décidé d'être bon. Si vous n'en profitez pas, c'est parce que vous avez décidé qu'il était mauvais à votre égard. C'est pas possible autrement. Si vous n'en profitez pas, c'est parce que vous refusez la main qu'il vous tend. C'est impossible autrement. Dieu a décidé d'être bon avec vous. Que vous arriviez maintenant, à la 11e heure, à la fin de votre vie, après avoir gaspillé et brûlé la chandelle par les deux bouts, que vous arriviez que maintenant à l'espérance de la foi, aux choses de Dieu, aux portes de l'éternité. C'est pas grave. L'important, c'est d'y arriver avant de mourir. Parce qu'une fois qu'on est mort, on ne choisit pas d'aller au ciel ou en enfer. C'est sur la terre qu'on choisit, c'est maintenant. Finalement, briser les a priori, laisser au placard votre sentiment d'injustice, de jalousie. Il y a des préférences et Dieu préfère les uns plutôt que les autres. Dieu m'a jamais aimé, j'ai jamais eu de chance. Mettez tout ça au placard et réalisez que cet après-midi, Dieu vous aime. Et il a décidé de vous bénir. Il a décidé de vous faire du bien. Il a décidé de bénir votre vie. Acceptez les règles de Dieu. Acceptez ses choix et répondez à son appel. Je crois que cet après-midi, il peut vous libérer de toute culpabilité comme de toute condamnation. Arrêtez de murmurer. D'ailleurs, murmurer, ça dit rien de clair. Qu'est-ce que tu as dit ? On murmure, on râle, on se plaint. C'est jamais clair. Avec Dieu, c'est clair. Vous savez ce qu'il peut vous donner. Vous savez ce que vous perdez à le refuser. En tous les cas, vous ne saviez pas. Vous savez maintenant, si vous ne voulez pas de la main de Dieu, vous irez en enfer. Et votre ami sera le diable. Je ne vous encourage pas. Je vous encourage plutôt à aller en direction du ciel. Jésus a tout payé, tout accompli, tout réalisé pour vous. Faites la paix avec ce Dieu-là. Tout a été offert et c'est pour vous cet après-midi. Amen. On peut prier pendant quelques instants. Seigneur, nous venons devant toi parce que nous réalisons à quel Dieu nous avons affaire. Quel grand Dieu tu es. Nous réalisons que tu es merveilleux pour tes enfants. Tu es bon pour nous. Tu sais nous garder, nous accompagner. Tu sais guider nos pas. Tu sais conduire nos vies. Et c'est vers toi que nous allons maintenant parce que tu es tellement bon. Je veux te demander de bénir notre auditoire, de bénir nos vies, de bénir chacun de nous, de nous accorder ta faveur et ta grâce. Il te plaira, mon Dieu, de manifester ta bienveillance. Il te plaira de manifester ton secours et ta grâce. Merci de tant de grâce et de tant de fidélité. Je prie que tu étendes ta main. Je prie que tu agisses maintenant et que tu te glorifies. Si quelqu'un est malheureux, si quelqu'un est angoissé, si quelqu'un est dans les difficultés, si quelqu'un est véritablement frustré et ne cesse de murmurer, je voudrais que tu balayes cette volonté, cette habitude de se plaindre et que tu fasses place au contraire à ta grâce infinie. Manifeste ta bienveillance au nom de Jésus et glorifie-toi, je t'en prie maintenant. Merci notre Dieu. Amen.